dans l'ordre chronologique des trois religions monothéistes. Mais cette fois-ci, vu l'importance et le caractère de la finance islamique, ça nous a paru plus logique de commencer avec la finance islamique. Merci beaucoup à Tariq, que je vais présenter brièvement. Donc Tariq Ben Garay est chercheur en droit musulman et en finance. Il est porte-parole du comité indépendant de la finance islamique. Le diplômé, alors on n'a pas Jacques Attali ce soir, mais on a une collection de diplômes impressionnantes à la tribune. Alors notamment l'école pratique des hautes études en sciences religieuses, ingénieur de l'EMI au Maroc, et puis de l'école nationale des ponts et chaussées. Et tu as également un MBA en finance. Voilà. Et puis tu as écrit un certain nombre de livres. Je crois que d'ailleurs qu'il y a des présentations qui sont dans le fond là-bas. On pourra y revenir plus tard. Tu as même t'as des notes et plusieurs livres, et notamment celui-ci sur comprendre la finance islamique, hein, qui est un livre assez générique sur la question. Voilà. Donc Tariq, tu as la parole. Environ une vingtaine de minutes en essayant de ne pas déborder. 2 fois 15 minutes pour nos intervenants chrétiens, et également un quart d'heure pour Jean-François, sachant qu'il y aura peut-être des compléments dans la salle, j'en dis pas plus actuellement, et je laisse la parole à Tariq.
Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, un grand merci à Marc pour cette aimable invitation, pour l'initiative aussi, qui est à la fois pertinente et qui tombe vraiment bien, puisque effectivement, on est dans une époque marquée par une crise, ou par des crises cycliques, des crises financières cycliques, et puis surtout par une tension financière et économique qui est palpable. Et donc, on est aussi en pleine actualité enflammée sur l'islam, sur le fait religieux en général, et sur l'islam en particulier, avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc effectivement, comme on dit, on tape toujours sur le maillon faible et sur ceux qui sont les moins organisés. Donc effectivement, c'est une bonne chose de parler de la finance islamique, qui est pour moi une valeur ajoutée à la fois pour l'économie mondiale et française. Donc je vais essayer d'être à la fois bref et précis, puisque la finance islamique, pour en parler, il ne suffit pas d'un petit quart d'heure, mais de plusieurs séances et plusieurs recherches, parce qu'effectivement, c'est une finance embryonnaire, c'est une finance naissante, c'est une finance à potentiel très fort. Donc, je vais essayer de donner un peu des flashs, sachant que je compte plutôt sur vos questions pour enrichir à la fois le débat et pour donner plus d'éclaircissement. Donc, je vous passe l'historique de la finance islamique, qui est à la base une finance, entre guillemets, religieuse, qui a commencé avec l'avènement de l'islam, donc comme on le sait, la dernière religion monothéiste, qui est l'islam, elle est à la fois organisée en code cultuel et aussi en code moral. Et le code moral islamique, il ne gère pas seulement les aspects de comportement individuel, mais aussi économique. C'est-à-dire qu'il y a tout un code moral à respecter dans l'islam, que ce soit dans les comportements des hommes entre eux, dans horizontalement et verticalement. Et donc la finance islamique s'inscrit de ce qu'on appelle le droit commercial musulman, qui est régi par un code bien particulier, par des principes bien définis, qui sont là depuis l'avènement d'islam, donc depuis plus de 1400 ans. Cette finance islamique a eu des effets très positifs à des moments clés de la civilisation islamique glorieuse, dans l'empire abbasite, ensuite effectivement l'empire de l'Orient, on va dire, puis ensuite dans l'empire de l'Occident, c'est-à-dire l'Andalousie musulmane. Et à ce stade, j'avais dénombré dans une recherche à l'occasion du sommet mondial sur l'école malikite à peu près 1500 contrats qui a été fait donc en Andalousie musulmane de l'époque, rappelant que c'est une civilisation qui a duré à peu près 8 siècles, dans lesquels ont collaboré et cohabité de façon très riche et très diversifiée les trois religions monothéistes, donc un exemple d'entente et du bien vivre ensemble. Et donc dans ce milieu-là, il y a eu ce développement de certaines techniques, de certains contrats qui ont été après développés en Europe, utilisés en Europe, etc. Donc j'avais dénombré à peu près un millier. Si je veux être. Voilà. Après, il y a la finance islamique postcoloniale, c'est-à-dire cette finance islamique qui a pris de la finance classique pour, entre guillemets, l'épurer de ce qu'il n'est pas éthiquement recevable dans le code moral islamique. Cette finance postcoloniale, elle a commencé dans les années 50, à peu près en Égypte, avec des initiatives privées, ensuite en Malaisie. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'Islamic Development, de la Banque islamique de développement en Arabie Saoudite, à Jeddah, en 1974. Et cette banque islamique, elle va se créer définitivement donc, en 1975, avec ensuite la naissance de banques purement islamiques comme la Dubai Islamic Bank, la Kuwait Finance House et la Bahrain Islamic Bank. C'était en 1975. De 1979 à 1983, on va assister à une, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce mot, une islamisation des systèmes financiers de pays comme le Pakistan et l'Iran et le Soudan. Après, s'en est suivi une autre vision des choses dans le Golfe, notamment aux Émirats, en Indonésie et en Indonésie et en Malaisie. De 2000 à 2008, la finance islamique va prendre une autre ampleur, un autre virage, on va dire, avec son développement en Europe. Notamment HSBC qui a donné naissance à Amana, HSBC Amana, qui est notamment la Deutsche, l'UBS, l'IBB, l'Islamic British Bank, etc. Donc on va assister à un développement important, significatif de la finance islamique dans un milieu qui est normalement, entre guillemets, marqué par la finance classique. Et on va avoir le Royaume-Uni qui va se placer comme leader et comme plaque tournante de la finance islamique en Occident. Alors, pour la France, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un peu l'historique et je viens à la France. Tout d'abord, il y a eu la note de l'Autorité des marchés financiers le 17 juillet 2007, qui constitue le premier texte de droit français qui vise expressément la finance islamique. Ensuite, il y a eu le rapport d'information numéro 347 du Sénat, en date du 22 juin 2007, qui souligne la nécessité d'encourager l'émergence de la finance islamique en France. Ensuite, l'agence de notation financière Moody's a publié un rapport indiquant que la finance islamique en France offre un fort potentiel, mais des obstacles, notamment juridiques, demeurent. Ensuite, il y a eu l'ouverture à l'île de la Réunion d'un fonds islamique validé par l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF, géré par une filiale de la Société Générale, BFCOI. Ensuite, on va avoir l'intervention de politiques, notamment donc l'ancienne ministre, Madame Christine Lagarde, qui a été invitée donc au forum Paris Europlace. Donc elle s'exprimait le 2 juillet 2008. S'adressant à des investisseurs du Moyen-Orient, nous avons développé, elle dit, donc je la cite, nous avons développé à la fois sur le plan réglementaire et fiscal, elle parle au futur, tout ce qui est nécessaire pour rendre vos activités aussi bienvenues ici à Paris qu'elles le sont à Londres et sur d'autres places. L'autorité des marchés financiers a déjà mis en place des règles compatibles avec le développement de fonds d'investissement qui remplissent des principes de la charia. Et là, il faut comprendre la charia, non pas dans le sens péjoratif du terme chez le vulgaire, mais dans un sens, comme je l'ai dit, principiel, donc avec des normes et une morale. J'expliquerai tout à l'heure cette morale. J'ai demandé à mon administration, donc elle continue, d'apporter des clarifications fiscales et juridiques nécessaires pour faciliter l'émission des soukouks, ce qu'on appelle les obligations islamiques, j'y reviendrai, et permettre la structuration d'opérations immobilières de finances islamiques sans frottement fiscaux concernant en particulier les droits d'enregistrement. Et donc ça, c'est très important, puisque tout de suite après, le cadre fiscal français a été aménagé pour deux produits conformes à la charia, les soukouks, c'est-à-dire les obligations islamiques, et la murabaha, avec la suppression de ce qu'on appelle le double enregistrement, quand il y a donc le double, l'achat de la banque du bien et puis l'achat du client donc à travers la banque. La Direction générale du Trésor a publié ce qu'on appelle des fiches doctrinales, des fiches de doctrine, pour préciser les aménagements apportés. Donc il y a eu pas mal d'instructions fiscales qui ont vu le jour depuis. Je ne vais pas les citer ici, ils sont nombreux. Le Parlement français a adopté ensuite, en 2009, en septembre 2009 très exactement, une proposition de loi qui autorise l'émission d'obligations islamiques Sukuk, en dépit des protestations de l'opposition de gauche. Le texte a été présenté, puis ensuite annulé, parce que jugé par effectivement quelques militants de gauche anticonstitutionnels. Mais effectivement, il va être revu, et donc je pense dans les prochains mois, il va y avoir peut-être d'autres annonces de ce type-là. Il y a eu pas mal de réalisations pratiques en France.
L'argument utilisé, c'était que c'était anticonstitutionnel, c'est ça ?
Bon, on va y revenir. Bon, ensuite, il y a eu quelques réalisations en France, comme la SICAV islamique chez Crédit Agricole, Asset Management, datée du 29 septembre 2009, de droit luxembourgeois, mais qui s'applique en France. Et en France, il y avait trois compartiments. Il y a eu ce qu'on appelle un takaful, c'est-à-dire une assurance islamique chez Alliance Île-de-Réunion. Il y a eu une murabaha avortée chez Bred, ce qu'on appelle désormais l'effet Bred. C'est-à-dire que Bred a essayé de faire un jeu intéressant en octroyant un prêt, ce qu'on appelle une murabaha, c'est-à-dire un achat d'un bien immobilier avec une promesse de vente et avec l'achat du bien et puis sa revente avec une marge bénéficiaire et pour un sportif de haut niveau. Ensuite, il y a eu des effets malheureusement très négatifs parce qu'il y a, comme vous le savez, une allergie assez croissante pour le mot islamique et ça a beaucoup gêné donc notamment les clients de la Bred qui se sont empressés à menacer de retirer leurs avoirs, ce qui est la chose la plus catastrophique que peut redouter une banque. Et donc, tout de suite derrière, la Bred a fait une contre-annonce pour dire que c'est tout simplement de la recherche et développement. Donc, ça s'est passé en mars 2010. Et il y a eu aussi des tentatives de rapprochement entre la Qatar Islamic Bank et la BPCE, en tentative, encore une fois, qui n'ont pas duré longtemps. Donc, effectivement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Bred, c'est cette crainte de certaines banques, surtout de grandes banques, avec lesquelles on a discuté, de l'image, de ce qu'on appelle le risque d'image, surtout en France, de cette finance islamique, si on, si on garde ce nom islamique. Enfin, le comité, le Sharia Board que je représente ici, qui s'appelle SIFI, Comité indépendant de finance islamique en Europe, qui est un des trois Sharia Board qui existent en France, pour répondre justement aux besoins de certification des produits conformément à la finance islamique, au code de la finance islamique, on vient de nous solliciter pour valider la première assurance vie islamique en France. C'est une assurance vie qui est basée sur une SICAV luxembourgeoise. C'est un fonds de fonds composé d'une à peu près 74 fonds qui sont tous le tamponné Sharia. Donc c'est un univers Bloomberg. Et ils vont servir de support, donc d'investissement, d'unité de compte de l'assurance vie en question, qui sera elle-même donc tamponnée Sharia. Voilà donc les dernières actualités. Il y a d'autres fonds privés qui se sont mis. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi techniquement et pourquoi éthiquement cet intérêt à la finance islamique. Bien évidemment, il serait naïf de croire que on s'intéresse à la finance islamique parce que la France est le pays où il y a la population d'origine musulmane la plus nombreuse. C'est pas cela du tout l'idée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise financière, on a besoin de capitaux, et donc on essaye des finances alternatives. Et aujourd'hui, il y a le Golfe, où il y a beaucoup de liquidités, on ne sait pas quoi faire avec cette liquidité. La France, effectivement, est un potentiel très attractif au niveau investissement, au niveau opportunité. On essaye justement de capter ces capitaux qui sont donc au Golfe, donc en leur proposant des contrats ou des investissements qui sont conformes à leurs convictions. Raison pour laquelle peut-être on ne verra jamais venir du retail, donc du retail banking islamique en France. Il y a presque toutes les banques françaises aujourd'hui font de la finance islamique, mais à l'étranger, c'est-à-dire par exemple avec BNP Najma à Bahreïn ou HSBC à Manon, etc. Donc on sait déjà comment faire la finance islamique dans nos banques françaises. Mais il est difficile aujourd'hui, vu ce qui se passe à la fois pour deux raisons, une raison culturelle et une raison peut-être jurisprudentielle, le frottement avec la laïcité, entre autres, etc. Tout cela, toute cette crainte, qui pour moi n'est pas vraiment justifiée, fait que ça tarde à venir, malgré les encouragements et malgré les signaux positifs donc, qui ont été émis jusque-là. Alors, quelques principes très brièvement, donc après cet historique à la fois politique et social. Bien évidemment, quand on parle de la finance islamique, on est obligé de se frotter avec le politique et le laïc. C'est la limite un petit peu entre la laïcité, la politique et la religion. Tout est entremêlé. Alors, les principes de cette finance islamique. Premier principe, donc, c'est que le modèle économique musulman est différent du modèle capitaliste, c'est différent du modèle communiste. Parce qu'en islam, l'argent n'est pas à l'individu, c'est-à-dire dans la mesure où c'est un dépôt de Dieu chez l'homme, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans le terme coranique amana, un dépôt sacré, c'est-à-dire Dieu a confié à l'être humain cet argent, c'est bien, et il l'a responsabilisé, d'où le terme vicaire, khalifa, donc lieutenant, il lui a donné cette lieutenance sur ses biens, et il va être jugé sur à la fois sa provenance et sa dépense. Et donc, la vision de l'islam est que l'être humain, il est simple dépositaire de l'argent, certes, il l'a gagné, mais c'est Dieu qui lui a confié cet argent. Donc, il sera justement jugé sur sa provenance et sa dépense. L'argent, donc, est à Dieu, comme dépôt chez l'être humain, donc responsabilisation, notion de lieutenance, mais en même temps, et l'argent n'est pas à l'État, comme chez le communisme, dans le modèle communiste. Donc, c'est un juste milieu entre le communisme et le capitalisme. Mais néanmoins, l'islam respecte la propriété privée et la sacralise, c'est-à-dire que les biens d'autrui sont sacrés. C'est pas parce que l'argent est à Dieu qu'on va dire que la richesse en islam est prohibée, pas du tout. Il y avait des compagnons du prophète de l'islam qui étaient très riches, par exemple le troisième calife, Usman ibn Affan, etc. Donc l'islam ne condamne pas la richesse si elle est bien acquise et dépensée dans ce qui est, enfin dans l'obéissance, entre guillemets, c'est-à-dire dans ce que Dieu a voulu qu'elle soit dépensée. Donc c'est très subtil, c'est-à-dire à la fois il y a cette liberté et en même temps il y a un cadre moral de cette liberté. Donc, elle n'est pas absolue. En même temps, donc, si on veut parler des principes, donc premier principe, c'est l'interdiction du préjudice, qui est basé sur un hadith très important, qui est on ne subit pas de préjudice et on ne fait pas subir de préjudice à autrui. Ça, c'est le premier principe, c'est-à-dire la levée du préjudice. C'est-à-dire les deux parties contractantes dans une transaction commerciale ne doivent pas subir, être lésées. C'est ce qu'on appelle, par exemple aujourd'hui, dans les transactions futures, forward, etc., on a toujours une partie qui doit gagner qui doit perdre pour que l'autre gagne. Ce système de transaction, on ne le trouvera pas dans la finance islamique. Deuxième grand principe, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle le riba. Riba, c'est, il est de deux sortes. Mais ce qui nous intéresse le plus et ce qui est très fréquent, c'est la facturation du délai de crédit. Si je veux résumer en un mot, c'est la facturation du délai de crédit. C'est-à-dire, en islam, le crédit ne peut pas être industrialisé. Très important. C'est-à-dire, en islam, on ne peut pas avoir une crise de dette, ni dette souveraine, ni dette particulière. Donc ça, c'est impossible en islam. Puisque toute dette en islam, tout crédit en islam doit être gratuit. C'est ce qu'on appelle Qard al-Hassan. Donc ce modèle est très important parce que l'interdiction de ce qu'on appelle le riba n'encourage pas les banques islamiques à faire du crédit, puisque le crédit doit être par définition gratuit, c'est-à-dire l'argent ne peut pas apporter l'argent.
Pas d'intérêt.
Voilà, pas d'intérêt. Donc, ce qu'on appelle l'intérêt, et en islam, les deux taux sont interdits, c'est-à-dire le taux d'intérêt et le taux d'usure sont interdits. Deuxième grand principe, c'est l'interdiction du gharar. Alors, le gharar, c'est défini par toute transaction ambiguë, aléatoire, dans laquelle ou bien la quantité n'est pas connue, ou bien la qualité n'est pas connue, ou bien le délai n'est pas connu. Tout ça pour éviter ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le respect, pour garantir le respect de ce premier principe, qui est l'interdiction du préjudice. Parmi les aspects du gharar dans la finance classique, c'est ce qu'on appelle les produits toxiques à l'origine du subprime. C'est la titrisation des créances, par exemple. C'est-à-dire, vous avez ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis avec ces crédits à taux variable pour justement financer ses biens immobiliers. Ensuite, on s'est retrouvé avec des, entre guillemets, des gens qui ne pouvaient plus payer parce que la conjoncture économique était telle que ces taux d'intérêt devenaient importants. Les débiteurs ne pouvant plus payer, les maisons étant hypothéquées, on a sorti ces maisons à la vente. Ces maisons, comme vous le savez, la loi de l'offre et la demande, il y a eu beaucoup d'offres, donc la demande, enfin, donc les prix ont baissé, donc les banques ne pouvaient plus récupérer leurs mises. Et entre-temps, ces crédits-là ont été titrisés, donc envoyés de l'autre côté de, vers l'Europe, et donc il y a eu ces produits toxiques, il y a eu effectivement cette contagion du système international. Donc tout cela est pas possible donc, dans la finance islamique. Troisième grand principe, c'est l'interdiction du maïsir, c'est-à-dire les jeux de hasard, tout ce qui est basé sur la spéculation hasardeuse. C'est-à-dire on ne peut pas dire, par exemple, c'est les principes de ce qu'on appelle l'assurance commerciale, on ne peut pas miser sur la mort ou sur la vie, par exemple, parce que c'est un événement aléatoire. Donc on ne peut pas facturer cet élément qui est aléatoire. Et dernier grand principe, c'est le principe des trois P, c'est-à-dire le partage des profits et des pertes, ou des pertes et des profits. Ce principe sous-entend quoi ? Sous-entend que dans une moucharaka, c'est-à-dire ou dans une mudaraba, ce qu'on appelle société, qu'elle soit en commandite simple, ou joint venture, ou n'importe quel type de société moderne, les associés, ceux qui ont donné le capital, ils sont proportionnellement liés à leur capital, c'est-à-dire qu'en cas de bénéfice, ils auront le pourcentage du bénéfice correspondant à leur capital, et en cas de perte, ils assument la perte proportionnellement à leurs capitaux, et que le capital, justement, n'est pas garanti. C'est-à-dire celui qui va fructifier le capital, s'il y a une perte du capital, elle est subie par les détenteurs des capitaux. En gros, par exemple, le marché monétaire classique ne peut pas être... il est interdit en islam. Pourquoi ? Parce que l'obligation, c'est-à-dire la facturation du délai de crédit lié à cette obligation, c'est-à-dire le fait d'assurer un taux à l'investisseur qui va investir dans l'obligataire, ça c'est interdit. Parce que d'abord, ça, c'est équivalent à du taux d'intérêt. Ensuite, c'est contraire à la règle des 3P, c'est-à-dire que l'investisseur doit jouer le jeu. Et ce juste retour des pertes et de rendement lui est dû, comme il est dû aussi, s'il y a perte, effectivement, d'assumer cette perte. Donc voilà, en gros, les grands principes de la finance islamique. Et de ces grands principes, que je viens de citer, va découler les contrats. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les contrats, ni parler de ces contrats. Je vais tout simplement donner quelques témoignages de ce qui s'est un peu dit sur la finance islamique ces derniers temps. Parce que on peut, là encore une fois, c'est une recherche empirique assez récente qui s'est intéressée, que j'ai rapporté aussi dans mon livre. Quand on entend ces principes, on a tendance à croire que la finance islamique va souffrir justement des contraintes liées à ces principes. C'est-à-dire qu'elle va se priver d'opportunités à cause de ces principes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On a fait des recherches, donc il y a eu des statisticiens, des chercheurs qui se sont justement basés sur des échantillons sur plusieurs années pour savoir est-ce qu'en période de vache maigre, est-ce que la finance islamique, effectivement, elle est en train de souffrir comme la finance classique ? Est-ce qu'en période de vache grasse, est-ce que les rendements, justement, sont supérieurs ou inférieurs à cette finance classique ? Et donc, ce que je rapporte ici, une recherche récente faite par, qui s'appelle donc un document The Performance of Islamic Markets Index in Catastrophic Markets Events, qui est un document que vous pouvez retrouver facilement, qui a été fait donc par Joubert et M. Ben Salah en 2009 à l'Université Paris-Dauphine. Il s'est intéressé donc aux mesures de performance boursière de la finance islamique et à l'impact de l'application des critères d'exclusion sur le niveau de performance globale d'une panoplie d'indices islamiques. La question était de savoir si la finance islamique était capable ou non d'offrir aux investisseurs boursiers une rentabilité et un risque de niveau comparable. Plusieurs indices, donc le Dow Jones islamique sectoriel et régionaux, ont été appariés à des équivalents classiques sur la période donc, de 1996 à 2009. Donc sur cette période, les résultats ne dénotent pas une différence significative de la performance au niveau mondial. pour la région d'Asie-Pacifique en particulier, la performance mesurée par le ratio Sharpe, alors pour ceux qui ne connaissent pas le ratio Sharpe, c'est un ratio qui permet aux gestionnaires d'un fonds d'optimiser le niveau de risque pris par, et la rentabilité attendue. Donc c'est pour avoir une mesure du risque, en tout cas, de l'indice islamique. Et on a vu donc qu'elle est significativement supérieure de 0,117 par rapport à celle de l'indice conventionnel, traduisant une meilleure rémunération de risque. Ces constatations empiriques ont permis, sur les années étudiées, d'affirmer que le secteur de la finance islamique ne semble pas souffrir des coûts qui lui sont spécifiques. Et évidemment, la meilleure région qui a démontré une assez solidité par rapport au rendement reste l'Asie-Pacifique. Donc, ça, c'est des, je peux vous, vous pouvez vous rapporter à des études économiques qui ont été faites sur des années, puis là, sur l'année 2009-2012 aussi. Simplement, donc, il n'en reste pas moins que c'est une finance naissante, qu'il faut faire très attention qu'elle est aussi touchée par la crise que la finance classique, mais à des degrés différents, qu'on a eu aussi la crise de Dubaï, qu'on a eu aussi la crise de confiance, que la crise, ce qu'on appelle le marché interbancaire, la crise de crédit est toujours là, que la finance islamique réagit et interagit dans un milieu classique, donc elle dépend de la finance classique, donc il y a une interdépendance, il y a un jeu d'ensemble et donc contagion à des degrés différents. Dernière chose que je voulais citer pour finir ce que j'avais à dire, c'est deux témoignages, on va dire, qui m'ont paru pertinents sur un peu ce qui a été dit à la fois dans les journaux et dans sur le marché. Donc il y avait effectivement ce qu'a dit un ami que vous connaissez tous, hein, c'est un ami éditorialiste, donc de Vincent Beaufils, rédacteur en chef du magazine Challenge, revenant sur l'ouvrage d'André Comte-Sponville sur la morale et le capitalisme. Le capitalisme est-il moral? Donc l'éditorialiste a écrit quand même en septembre 2008, sur son journal Challenge, des propos qui ont un peu choqué pas mal de monde, parce que ça coïncidait avec la visite du pape Benoît XVI en France. Il a dit donc, c'est assez sincère et osé, en réalité, Benoît XVI nous pardonnera au moment où nous traversons une crise financière qui balaye tous les indices de croissance sur son passage, c'est plutôt le Coran qu'il faut relire que les textes pontificaux. Donc je vous ai mis en garde, c'était assez osé. Car si nos banquiers avides de rentabilité sur fonds propres avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Il ne faut pourtant pas voir la finance islamique comme un exercice de troc moyenâgeux, car les pays du Golfe nous ont montré combien leur mentalité entrepreneuriale savait épouser le 21e siècle. Simplement, leurs banquiers ne transigent pas sur un principe sacré. L'argent ne doit pas produire de l'argent. La traduction de cet engagement est simple. Tout crédit doit être adossé. Tout crédit doit avoir en face un actif bien identifié, interdit les produits toxiques, oublier les APS et CDO, que personne n'est capable de comprendre. Autrement dit, l'argent ne peut être utilisé que pour financer l'économie réelle. Il n'y a donc pas de hasard si les banques du Golfe sont sorties indemnes de la crise des subprimes, c'est qu'elles n'y sont pas entrées. Le respect de ce principe du Coran est également fort utile dans la réaction que chacun entretient avec l'argent. Qu'il s'agisse des entreprises ou des particuliers, les personnes morales n'ont ainsi pas le droit de s'endetter au-delà de leur capitalisation boursière. Encore une fois, un peu plus tard, en juillet 2009, Bloomberg nous apprend que le quotidien officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, venait de publier un article vantant les mérites de la finance islamique pour l'Occident en crise, 3 ans donc après Ratisbonne et le discours du pape. Donc le Vatican fait un peu l'apologie de l'islam. Et puis bon, voilà, donc là, ça montre un peu ce que pensent les autres de la finance islamique. Ça peut effectivement être un peu gênant. Tout simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il propose de regarder, donc de ne pas sous-estimer cette finance islamique naissante. Il dit donc, idée et proposition de la finance islamique pour l'Occident en crise. Il ne s'agit pas simplement pour le Vatican de voir en la finance islamique, cette finance qui refuse de faire de l'argent avec de l'argent, une conception parmi d'autres de l'économie financière. Le Vatican suggère que l'on se fonde sur des règles de la charia pour repenser l'économie mondiale. Bien évidemment, ce n'est pas un texte de loi, c'est un avis de ce journal qui pour moi est assez significatif de la traversée à la fois épistémologique et intellectuelle de cet organe. Voilà, il finit par proposer de financer l'industrie automobile et les Jeux Olympiques de Londres au moyen des soukouks, c'est-à-dire des obligations islamiques. Je m'arrête là parce qu'effectivement,
il y a un petit peu dépassé.
Je devais m'arrêter.
Merci beaucoup, Thierry. Je crois qu'on va voir qu'il y a sans doute beaucoup de valeurs communes, hein, ce soir, entre les différentes traditions. On va passer la parole à Jean-François. Merci beaucoup, donc, encore une fois, Jean-François, d'avoir accepté de remplacer Jacques Attali un petit peu dévoté. Pour te présenter brièvement, tu es membre du bureau de la Fraternité d'Abraham. Vous savez peut-être que la Fraternité d'Abraham rassemble les trois religions, et certains disent qu'ils ne vont pas dire les religions, les trois religions du livre, en tout cas les trois traditions monothéistes. Et tu es par ailleurs membre du mouvement juif libéral de France. Merci beaucoup, je crois que tu vas nous parler des aspects bibliques, et donc ça fera aussi une entrée en matière pour nos intervenants chrétiens qui viennent après.
Oui, je te remercie. Je précise que quand tu m'as téléphoné, quand j'ai eu ton message hier soir, j'ai dit oui parce que tu m'as dit justement d'essayer de parler de textes bibliques. Je précise que je ne suis pas économiste. De formation, je suis ingénieur, mais contrairement à la majorité des ingénieurs d'aujourd'hui, je n'ai pas fait d'économie professionnellement. Je commencerai peut-être par une anecdote que j'ai vécue il y a pas tout à fait 2 ans. Il s'agissait de la réunion africaine des anciens du scoutisme-guidisme. Et à cette réunion, guidisme, le scoutisme masculin et féminin. Et à cette réunion, on a fait venir un économiste qui s'appelle